December heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set,
toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York.
Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday the 13th.
All right. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du crime à mes oreilles. Et aujourd'hui, on est dans les balades meurtrières avec notre cher ami Philippe.
Et ça. Hello tout le monde.
Ça va Philippe?
Ça va.
Et oui. Et Philippe, t'as invité quelqu'un avec nous aujourd'hui. Qui travaille très dans l'ombre avec nous habituellement.
Exactement, notre travailleur de l'ombre Silvio, parce que on va parler d'anarchisme, on va parler de mouvements contestataires, on va parler d'une chanson, je pense, qui est chère à son cœur. Et donc, voilà, je trouvais que c'était sympa de l'avoir avec nous.
All right.
Tout le monde, merci pour l'invitation.
Yes, sir, Sylvio, ça va bien?
Ça va, merci, vous.
Mais oui, ça va bien. Content de t'avoir avec nous autres pour une deuxième fois. Là. On réussit à te sortir tranquillement, là, tu vas voir.
Profitez-en bien quand même, ça ne va pas toutes les semaines non plus. Hein.
Non.
Non.
Yes, Philippe, je te laisse nous présenter un peu ton sujet de la journée.
Ouais, donc je rappelle le concept, hein, donc les balades meurtrières, on part d'une chanson pour raconter une histoire criminelle, parce que cette histoire criminelle, en fait, c'est celle qui est racontée par la chanson. Et aujourd'hui, on va parler d'une affaire qui s'appelle l'affaire Sacco et Vanzetti. Alors, c'est une affaire qui est, je veux dire, assez connue, plus connue que d'autres balades meurtrières dont on a parlé. Et ça vient, donc en fait, la chanson, c'est la chanson qui vient d'un soundtrack. Et le soundtrack, c'est un film qui s'appelle Sacco e Vanzetti. C'est un film d'un certain Giuliano Montaldo. C'est pas un réalisateur très connu. Je pense que le soundtrack est plus connu que le film.
Okay.
Et le soundtrack est l'œuvre de Ennio Morricone. Et la chanson est chantée par John Baez. Donc on a un duo qui est vraiment, je pense, extraordinaire dans l'histoire de la musique. Hein, donc, un compositeur de génie et puis une interprète de protest song qui est peut-être une des plus connues de l'histoire de la musique.
Mmh.
Alors, Ennio Morricone, il est très connu, mais je vais quand même en parler un petit peu. Donc, c'est un compositeur et chef d'orchestre. Il est italien, il est né en 1928 à Rome et malheureusement, il est décédé en 2020.
Okay.
Alors, c'est l'un, si pas le plus grand compositeur du film de tous les temps. C'est immense compositeur. Il a travaillé sur plus de 500 films autour de sa carrière, donc belle œuvre.
C'est pas peu.
Hein. Ah non, c'est pas peu, vraiment. Et il a couvert pas mal de genres cinématographiques. Le plus connu, je pense, on va surtout l'associer, c'est Western. Mais il a aussi travaillé dans un genre italien qui est très très intéressant, qui s'appelle le giallo. Il est passé par le film de gangster, des très très grands films de gangster avec des scores de Morricone, des films historiques comme Mission, et aussi des films très intimistes. Donc il a vraiment balayé pas mal de genres. Et même si on l'associe vraiment à ce western spaghetti.
Mm-hmm.
Alors, il a fait un conservatoire qui s'appelle le conservatoire de Santa Cecilia à Rome. Et son début de carrière, en fait, c'est une carrière de trompettiste professionnel. Donc, son instrument, c'est la trompette.
Okay.
Mais il a évolué vers la composition de musique de film. Et c'est surtout dans les années 60 qu'il a émergé en travaillant avec un grand réalisateur italien qui s'appelle Sergio Leone.
Avez-vous déjà essayé de jouer de la trompette?
Non.
C'est quoi?
De jouer de la trompette?
Oui, impossible.
C'est quand même tough. J'ai été 6 mois dans les cadets, là, puis j'avais pris une option musique, là, puis c'était mon instrument. Là. Tabarnak! Puis pauvres parents.
J'ai essayé de souffler dans un saxophone un jour, mais rien qui est sorti.
Moi, la trompette, j'avais rencontré un gars ici sur Pointe-à-Pitre, c'est là avec elle courant l'année dernière, si je ne sais plus. Et je l'ai rencontré parce que j'entendais de la musique là où j'étais allé squatter. Du coup, je me suis dirigé au son, je l'ai cherché, je l'ai trouvé, on a sympathisé. Quelques temps après cette première fois, il y a un petit gamin qui est venu, enfin, ce pote-là jouait de sa trompette, je l'écoutais, je dessinais en même temps ou quoi. Puis un petit gamin qui est venu me voir en me disant, salut, je peux essayer. Alors, le pote Yvan, il a donné sa trompette. Le gamin, en quelques secondes, il a fait pouet, 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 pouet. J'étais là, oh, ça a l'air
Ah
facile et
ouais.
tout. Une fois que le gamin s'est barré, j'ai dit, bah, Yvan, vas-y, fais péter, je vais essayer aussi. Et moi, je fais.
Ah.
Je me suis pété la veine là, je me suis pété la veine là, je me suis pété la. Au bout d'un quart d'heure, j'ai fait, vas-y, dégage.
Yep. Comprends. Moi, j'ai essayé aussi de jouer. Vous voyez ce que c'est le didgeridoo? Hein, cet instrument australien là qui fait. Eh ben, impossible. J'ai rien réussi à sortir d'un didgeridoo. J'étais hyper humilié.
Ça vient chercher une place. Hein?
Mais ouais, c'est ça quoi. Tu te sens.
C'est pourtant si simple, c'est souffler de l'air quelque
Oui, c'est
part.
ça, exactement.
Ouais, c'est la manière de souffler qui est pas si simple. Autant la trompette que le didgeridoo, il y a une position de bouche un peu foireuse quand même, c'est pas naturel.
Non,
Ouais.
c'est ça. Je pense que tu l'as ou tu l'as pas, quoi. Moi, je l'ai pas.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ça doit s'apprendre quand même, mais genre le didgeridoo, je sais que c'est en fait, il faut faire à l'intérieur. Mais faire
Ah ouais.
c'est cool. Mais faire dans un tube. Bah, ma bouche, moi, elle fait plus à l'intérieur. C'est
Ouais.
pas faire, c'est normal.
Voilà, donc je reviens à mes westerns. Hein.
Yes.
Bah, les plus connus, c'est la trilogie des westerns spaghetti de Sergio Leone. Il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que ces trois-là, mais c'est les plus connus. C'est Pour une poignée de dollars et pour quelques dollars. Et pardon. Et que pour. Et pour quelques dollars de plus, pardon. Et Le bon, la brute et le truand. Alors celui-là, donc The Good, The Bad and The Ugly, ça me donne des frissons à chaque fois que je vois une version live de ce soundtrack. Et je vous recommande vraiment, vraiment, si vous avez un petit trou dans votre agenda là, avant les fêtes de Noël, il y a une version live du Danish National Symphony Orchestra, du Bon, de la Brute et le Truand, qui est mais incroyable et qui va vous donner des frissons de voir ce morceau interprété en live et de voir tous ces interprètes, enfin, de voir d'où viennent ces sons, c'est juste magique. Donc voilà, je rappelle, hein, Le Bon, de la Brute et le Truand par le Danish National Symphony Orchestra, c'est sublime. On mettra ça sur le Discord pour
Bah
ceux qui.
oui, faut pas l'oublier.
Et donc voilà, grâce à ces westerns, Morricone est devenu très connu. Il a vraiment réinventé aussi cette musique de western parce que, en fait, les instruments qu'il utilise, ce n'est pas du tout les instruments traditionnels du western. Tu vois, il n'y a pas de banjo, bon, il y a de l'harmonica dans certains morceaux, mais il y a aussi vraiment des aspects de musique lyrique dans les soundtracks de Morricone. Il y a du piano, il y a du violon, enfin, il y a beaucoup de cordes. Donc, on n'est pas dans les codes du western, mais il a recréé en fait les codes du western. Et d'ailleurs, on peut aussi dire qu'il y a de l'humour dans ces soundtracks de Morricone. Il y a aussi quelque chose d'un peu, je veux dire, un peu parodique parfois, mais c'est très, très beau. Alors, il y a aussi Cinema Paradiso, qui est un soundtrack magnifique. Il y a Les Incorruptibles, il y a Mission. Et puis, il a reçu un Oscar d'honneur en 2007. Et en 2015, il a reçu un Oscar pour le film de la musique de Tarantino, The Hateful Eight. Donc, Les Huit Salopards, je pense, en français.
Ouais, je pensais ça.
Voilà. Mais bon, pour moi, franchement, toute l'œuvre vaut la peine. Il n'y a pas un moment où vous allez sortir un truc de Morricone et vous allez trouver que c'est pas bien. Enfin, voilà, je trouve que c'est vraiment un compositeur qui mérite qu'on l'écoute régulièrement parce qu'il y a tellement de richesse et tellement de surprises dans cette musique que ça vaut vraiment la peine. Alors moi, mon soundtrack préféré de Morricone, c'est Giù la testa. C'est le titre, ça a peut-être parlé à Silvio, le titre français, c'est Il était une fois la Révolution. C'est un film sur la Révolution mexicaine. Donc c'est aussi un film de Sergio Leone qui est sorti en 71. Et il y a aussi des versions live, et notamment, alors ça aussi, c'est quelque chose que je vous recommande d'écouter. C'est un concert qui a été enregistré à Venise en 2007. Le concert, c'est un orchestre symphonique qui est dirigé par Morricone lui-même. Et on peut entendre la voix d'une soprano qui s'appelle Susanna Rigacci. Et sa voix est vraiment céleste. Enfin, voilà, c'est de nouveau un moment suspendu, vraiment magique. Donc, Giù la testa à Venise en 2007. Voilà, donc c'est un compositeur qui a une influence et une aura qui ont vraiment aussi dépassé le monde du cinéma. Je me souviens par exemple d'avoir été voir Metallica en concert et ils rentrent sur une musique de Morricone. Donc c'est.
Le fameux de devant la rue de l'électeur, non? Il me semble.
Je t'ai
Je sais
pas
pas.
bien compris.
Moi non plus, je pense que.
C'est le fameux titre de Le Bon, la Brute et le Truand, il me semble.
Oui, je pense que c'est ça, effectivement. Ouais. Et voilà, donc c'est il y a beaucoup d'émotions dans Morricone et la chanson dont on va parler aujourd'hui ne fait pas exception. Alors, l'autre enfin, l'interprète de la chanson, c'est Joan Baez. Donc, c'est une chanteuse, compositrice, mais aussi connue comme une militante. C'est une Américaine, elle est née en 1941. Et elle est connue autant pour sa musique que pour l'influence qu'elle a eue sur le mouvement des droits civiques. Elle a même joué un rôle aux côtés de Martin Luther King Jr. à l'époque. Elle a participé à beaucoup de manifestations, de protestations pour la justice sociale et pour l'égalité raciale. Mais bon, c'est aussi une grande chanteuse. Il y a des morceaux très célèbres. Il y a Diamonds and Rust, il y a Blowing in the Wind de Bob Dylan et il y a We Shall Overcome qui sont des chansons très très connues. C'est aussi une des artistes qu'on voit à Woodstock. Une grande chanteuse qui a été intronisée au Rock'n'Roll Hall of Fame en 2017. Son impact sur la musique folk et son rôle dans les mouvements sociaux des années 60. Et donc on en vient à notre chanson du jour, donc Here's to You. C'est ce qu'on appelle une protest song, hein. C'est pas la première fois qu'on parle ensemble de protest song. C'est pas la première fois non plus qu'elle l'a fait. Mais ce qui est particulier, je pense, avec cette chanson, c'est que c'est une protest song qui a été écrite 50 ans après les faits dont la chanson parle. Donc, c'est une chanson de 71, mais on va parler de quelque chose qui se passe en 1900, enfin, entre 1920 et 1927. Alors, ce qui est particulier aussi dans la chanson, c'est que la chanson, c'est une boucle, avec un seul couplet qui se répète. Donc, ce n'est pas du tout une structure couplet-refrain, il y a juste quelques mots. Donc, les mots, c'est Here's to you, Nicolas and Bart, Rest forever here in our hearts, The last and final moment is yours, The agony is your triumph. Donc, en français, si je le traduis littéralement, c'est à vous, Nicolas et Bart, reposez pour toujours ici dans nos cœurs, le tout dernier moment vous appartient, cette agonie est votre triomphe. Et je vais revenir sur la signification des paroles en fin d'épisode. Je vais d'abord raconter la chronologie des événements qui ont inspiré la chanson.
Parfait. On
Alors,
t'écoute.
c'est l'histoire de Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanzetti. Et l'histoire se passe dans le Massachusetts, ah, j'ai toujours du mal à le dire, dans le Massachusetts, dans la région de Boston. Tiens, tu dis Boston ou Boston?
Boston.
Tu dis Boston, ah ouais, c'est ça.
Ouais.
Et tu dis Pokémon ou Pokémon?
Pokémon.
Ah
Tout
ouais.
fait de sens. Non, non.
Ah ouais, Alors, Nicolas Sacco, lui, il est né dans le sud de l'Italie en 1891. Il a émigré aux États-Unis en 1908. Et il a travaillé comme ouvrier qualifié dans une usine de chaussures. Bartolomeo Vanzetti est né en Italie en 1888. Il est 3 ans plus vieux. Il est arrivé aux États-Unis la même année, en 1908. Et lui, il a fait plein de petits boulots, d'abord à New York, puis dans le Connecticut. Et puis, il est arrivé dans la région de Boston, où il a travaillé finalement comme marchand de poissons à Plymouth. On est vraiment toujours dans la même région. En 1917, il y a une mobilisation générale parce que c'est la Première Guerre mondiale. Et les deux, mais indépendamment l'un de l'autre, hein, ils ne vivent pas ensemble, quittent les États-Unis pour se réfugier au Mexique pour éviter d'être mobilisés parce qu'ils ne veulent pas aller faire la guerre en Europe. Et vous allez voir que ça va être retenu contre eux à un moment dans cette affaire. Alors, on a deux hommes ici qui sont vraiment de la classe ouvrière. On est dans l'Amérique de l'après-Première Guerre mondiale. Et c'est une Amérique qui est un peu secouée à ce moment-là. Bon, déjà, il y a la guerre et puis il y a des mouvements sociaux, des mouvements anarchistes qui commencent à émerger parce qu'on est dans une période où les conditions de travail sont très, très difficiles, les salaires sont très faibles, les syndicats sont très actifs pour essayer de lutter contre ça. Et
Ça
il
me
y a ce qu'on
rappelle une
peut.
situation au Québec en ce moment.
Oui, il y a des grèves. Hein.
Il y a des grèves, il y a 500 000 personnes en grève en ce moment.
Ah ben
Toutes
oui, je vois.
nos services publics là, sont tout en grève.
J'ai vu les enseignants aussi. Hein.
Ouais, ça fait
Ouais.
partie de ça, là. Fait que ça, moi, j'ai pas travaillé toute la semaine qui vient de passer. C'est ma première
Voilà.
journée de travail cette semaine.
Donc c'était la fin de la grève, là.
Ben,
Ça
c'est
reprend.
pas la. Ils ont fait une séance de grève d'une semaine.
Ah oui.
Puis là, s'il n'y a pas de règles, s'il n'y a rien qui se règle, ils partent en grève illimitée là, après. Là.
Ah oui, ok.
Fait que là, c'est rendu là.
Ah bah ouais, donc effectivement, il y a quelque chose un peu du même ordre. Ici, on parle de ce qu'on appelle le mouvement. Donc le mouvement, c'est un agrégat de communistes, de syndicalistes et d'anarchistes. Alors, n'y a pas vraiment un chef de ce mouvement, mais c'est quand même voilà, des petites communautés un peu partout qui protestent. Et il y a une surreprésentation des Italiens dans ce qu'on a appelé le mouvement. Les États-Unis ont vraiment peur que ce mouvement social soit contagieux parce que c'est très subversif. Et en plus, bah, à la même époque, il y a la Russie impériale hein, qui vient de tomber. Donc les Romanov ont été destitués, ils ont été remplacés par un régime communiste. Et en 1919, il y a la première grève générale, on en parle, la première grève générale aux États-Unis. Avant, ça n'existait pas. Donc on a une situation qui est très tendue. Et il y a beaucoup de violence aussi envers les mouvements contestataires. Donc c'est une période assez violente avec la police qui va souvent aller s'attaquer aux manifestants de façon très très violente. Et c'est particulièrement le cas à Boston. Et le corollaire de ça aussi, c'est que comme il y a beaucoup d'Italiens dans ce mouvement, il y a un racisme anti-italien. C'est un peu, on a connu la même chose en Europe aussi, dans la première vague d'immigration italienne. Il y a eu à un moment un mouvement de racisme anti-italien qui était assez véhément en fait. Et le destin de Sacco et Vanzetti va basculer le 15 avril 1920. Donc qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Il est 15 h, il y a un cambriolage qui tourne mal dans une petite ville, toujours dans le Massachusetts, je vais pas réussir à le dire, dans le Massachusetts, qui s'appelle Braintree. Et donc l'attaque se fait dans une usine qui s'appelle donc c'est une usine de chaussures qui s'appelle l'usine Slater-Morrill.
OK.
Et donc, il y a deux hommes, Fred Parmenter, qui est le responsable de la paye, c'est une sorte de comptable, je pense, et son garde, qui s'appelle Alessandro Berardelli, donc qui est aussi un homme d'origine italienne. Ils sont attaqués alors qu'ils transportent la paye des ouvriers. Alors, ils la transportent à pied, à ce moment-là. Et la paye des ouvriers, ça correspond à 15 700 dollars. Alors, 15 700 dollars de l'époque, c'est plus ou moins 200 000 dollars américains d'aujourd'hui. Les deux, ils ont que les gaz baladent. Il y a deux hommes armés qui s'approchent d'eux et ils les abattent sans sommation. Donc, ils se font tirer dessus tout de suite. Berardelli est le premier à tomber. Il meurt, je pense, quasiment sur le coup. Parmenter lui tente de fuir. Il est abattu dans le dos. Il va mou finalement encore mourir un peu plus tard sur le chemin vers l'hôpital, mais donc il est mortellement touché. Et les assaillants prennent l'argent. Je vous l'ai dit, hein, c'est à 15 h, donc on est en plein jour. Il y a des témoins qui vont voir cette scène de crime. Alors, les témoins ne sont pas très proches, mais il y a quand même pas mal de témoins qui voient cette scène de crime. Et donc, ils vont être capables de décrire les assaillants. Ils décrivent deux hommes trapus de relativement petite taille. Ça, c'est la description que les témoins vont donner. Et ils vont aussi voir qu'il y a une voiture occupée par deux autres hommes qui va en fait récupérer les braqueurs et l'argent. Et donc, quand la voiture va démarrer, elle démarre avec quatre malfrats dans la voiture.
Okay, ils ont un peu une description de la voiture, j'imagine,
Oui, c'est
aussi
ça.
qui.
C'est une voiture noire. Alors, je me souviens, elle était très lustrée, elle était très brillante. Ça avait frappé les témoins, par exemple. Donc, elle était très propre, la voiture. Et ça correspondait aussi à une voiture qu'on avait vue sur une autre, enfin, une tentative de cambriolage quelques semaines plus tôt. Donc, il y a visiblement un gang qui est à l'œuvre dans ces attaques. La voiture s'enfuit, ils arrivent à un passage à niveau. Et alors, je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque, les passages à niveau, ils étaient activés manuellement. Hein. Il y avait un petit monsieur qui sortait avec une manivelle, et puis c'est lui qui levait la barrière. Donc, il n'y avait pas de barrière automatique. Donc, ils vont braquer ce monsieur et obliger l'homme à ouvrir le passage à niveau. Donc, on a un témoin de plus. Lui, ils vont l'épargner. Et donc, 2 jours plus tard, la voiture, qui a été décrite par le témoin est retrouvée dans un bois. Alors, de nouveau, on va faire une différence. Vous dites un boisé, hein, au Québec, c'est ça?
Non, dans le
Non, on
bois.
peut dire un bois?
Dans le bois.
Ok. Voilà, dans le bois. Et bah, le propriétaire est facilement identifié. Il s'appelle Mario Boda. Alors,
OK.
on l'appelle Mike. C'est un Italien, mais il a pris un nom à l'américaine. Donc, c'est Mike Boda. Ça, c'est son nom officiel. Donc, ils vont pour arrêter Boda, mais ils se rendent compte que Boda a déjà fui les États-Unis et il s'est réfugié en Italie. Et 3 semaines plus tard, il y a Sacco et Vanzetti. Donc, c'est un long détour pour revenir à eux. Sacco et Vanzetti sont arrêtés par la police. Ils n'étaient pas du tout les premiers suspects dans cette affaire. Hein. Ils sont dans le même milieu que ce Mike Boda, mais ils connaissent des gens qui connaissent des gens qui connaissent Mike Boda un peu. Tu vois, c'est pas non plus qu'ils vivaient à côté de chez Boda ou qu'ils étaient identifiés comme étant membres de son gang. Donc, ils n'étaient pas les premiers suspects, mais c'est les seuls qui sont disponibles, on va dire.
Celles qui sont
Et...
disponibles, qui fit un peu, là.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment au mauvais endroit, au mauvais moment, quoi. Alors, il y a quand même des éléments qui ne jouent pas en leur faveur parce qu'ils vont être armés. Ils sont armés tous les deux quand ils sont arrêtés. Et ils vont pas être collaborants du tout avec la police. Ils vont mentir, ils vont inventer pas mal de choses pour expliquer qu'ils n'étaient pas sur ces lieux de crime, quoi.
J'imagine qu'ils sont pas super amis non plus avec la police.
Non, non, voilà, exactement. Ils ont des brochures aussi anarchistes. Donc, il y a tout pour que ces gars se fassent effectivement pas aimer d'une police qui est très, très, très anti-mouvements sociaux à cette époque-là. Donc, ouais, non, c'est pas une bonne alchimie hein, pour comment.
C'est ça. Fait que ça m'étonne qu'ils ont envie de collaborer avec eux autres.
Voilà. Donc, ils veulent pas. Et du coup, bah, ils se retrouvent inculpés de meurtre au premier degré. Même s'il n'y a pas beaucoup, y a pas beaucoup de preuves, en fait. Il n'y a même pas, y a pas de preuves. Il y a des indices qui ne sont pas favorables à Sacco. Contre Vanzetti, il y a vraiment, a priori, il n'y a rien du tout. Mais voilà, ils vont se faire arrêter, il y aura un procès, et le procès, bah, il a lieu dans un contexte hein, comme je l'ai dit, hein, de peur du radicalisme, peur de l'anarchisme aux États-Unis. Et il y a un juge qui va présider ce procès, qui s'appelle le juge Tailleur. Et le juge Tailleur, il a des préjugés très très forts contre les Italiens. On sait qu'il n'aime pas les Italiens, et on sait aussi que c'est un conservateur, et donc que les opinions politiques de Sacco et Vanzetti, et le statut d'immigré de Sacco et Vanzetti, lui plaisent pas du tout. Donc ça commence très très mal pour le procès. Et il y a des preuves, entre guillemets, qui sont présentées lors du procès, et les preuves qui sont pas très convaincantes. Alors, je ne dis pas qu'ils ne seront pas coupables, hein, mais en tout cas, il n'y a pas de preuves vraiment absolues, quoi. Mais il y a des indices, hein, comme je le disais, donc, mais ça ne permet pas d'aller... Dans un procès américain, on parle du doute raisonnable, même je pense que c'est le cas partout, hein, de se dire tu ne peux pas condamner quelqu'un s'il y a encore un doute raisonnable sur sa culpabilité. Et voilà, factuellement, pour Sacco et Vanzetti, il y a un doute sur le fait qu'ils soient coupables ou pas. Il y a quand même des témoins qui les reconnaissent, mais il y a aussi beaucoup de témoins qui ne les reconnaissent pas. L'analyse balistique à l'époque n'est pas suffisamment avancée pour pouvoir déterminer si c'est l'arme de Sacco ou Vanzetti qui a
Qui a
pu servir
tiré?
dans l'attaque, mais ça pourrait être celle de Sacco.
Ok.
C'est le même calibre. Après, est-ce que c'est la même arme? C'est pas sûr, mais c'est le même calibre. Et il n'y a aucune preuve par rapport à l'argent volé. Donc, c'est 5 700, c'est 15 700 dollars. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Donc, on n'a en tout cas rien vu dans la vie de Sacco et Vanzetti qui montrerait qu'ils ont tout d'un coup une petite fortune entre les mains. Les deux hommes ont un alibi, mais les alibis vont être réfutés. Alors, le premier alibi, c'est celui de Vanzetti. En fait, il y a 16 hommes qui vont se présenter pour dire, bah oui, moi, ce jour-là, j'ai acheté du poisson à Vanzetti, très loin de là où il y a eu l'attaque. Donc, a priori, c'est quand même solide, hein, 16 personnes qui disent, oui, j'ai acheté quelque chose. Il était pas à Braintree ce jour-là. Et Sacco, par contre, lui, il avait pris un jour de congé de l'usine, donc il n'avait pas pointé à l'usine le jour de l'attaque, mais il avait présenté un alibi qui était le fait qu'il s'était rendu au consulat italien à Boston pour une démarche administrative. Et après, il aurait pris un repas du midi avec plusieurs personnes, toujours, près du consulat italien. Mais tous les témoignages en faveur des deux sont réfutés parce que tous les témoignages proviennent d'Italiens. Ouais. Et donc, avec le racisme de l'époque, ils vont dire, ah oui, mais en fait, les Italiens protègent les Italiens, et donc ça n'a pas ces témoignages n'ont
Ça
pas
passe
la...
pas.
Voilà, ça passe pas.
Ça, c'est non.
Voilà. Ça rappelle aussi des choses un peu plus récentes, hein, mais avec d'autres ethnies. Alors, il y a aussi dans les débats quelque chose qui est très gênant, c'est que dans les débats, il y a beaucoup de débats, non pas sur ce qui s'est passé le jour de cette attaque en avril, mais il y a beaucoup de débats sur les opinions politiques de ces deux accusés et des dangers que représentent ces opinions pour le peuple américain. Alors qu'en fait, ça ne devrait rien avoir à faire avec ce procès. Tu vois, donc même
C'est
si
quoi
ce sont des opinions politiques qui te gênent, voilà, le procès, il devrait simplement s'orienter, enfin se concentrer sur les faits.
ça? Ouais, c'est ça. Ça devrait pas teinter rien.
Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de la bataille judiciaire, qui est quand même assez longue et assez lourde, mais le 21 juillet 1921, Sacco et Vanzetti sont reconnus coupables de meurtre au premier degré et sont condamnés à mort. Et au moment où il est emmené, Sacco s'écrie: vous assassinez un homme innocent.
Mais c'est ça, là, ils ont un doute sur leur culpabilité, mais ils
Ouais.
condamnent à mort quand même.
Voilà.
Ils n'ont aucun doute sur le fait qu'ils soient italiens et anarchistes, et ça suffit, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment un très très politique, hein, comme procès. Et c'est les deux hommes vont très mal vivre leur détention, mais c'est surtout Sacco qui va mal vivre sa détention parce que ce sont deux tempéraments très différents. Sacco, c'est un homme extrêmement vif, fougueux. Vanzetti, c'est plus entre guillemets un sage. Et donc lui, il va pas du tout supporter l'enfermement. Et donc il va devenir fou en prison. Alors fou dans une définition des années 1920, donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, il sera placé à partir de 1923 en hôpital psychiatrique. Donc, il va quitter la prison pour l'hôpital psychiatrique.
C'était peut-être juste un Italien.
Ah oui, c'est ça, peut-être. Bougez trop les mains pour l'époque. Et puis, ils vont faire appel, évidemment, et voilà, il y a des comités de défense qui vont se constituer avec quand même des moyens financiers pour financer des différents appels. Mais les appels ont été rejetés d'abord par le juge Taylor et ensuite par la cour suprême du Massachusetts. T'as vu, je l'ai dit du premier coup cette fois-ci.
Ben oui, félicitations.
Merci. Et puis, il y a un coup de théâtre en novembre 1925. Parce que à ce moment-là, il y a un prisonnier qui est condamné à mort dans une autre affaire. Donc le prisonnier, c'est un. Alors je ne sais plus, c'est un Sud-Américain, je pense. Je pense qu'il est d'origine cubaine, mais je ne suis pas sûr. Enfin bref, il s'appelle Celestino Maderos. Et il avoue qu'il est un des co-auteurs de l'attaque pour laquelle Sacco et Vanzetti ont été condamnés. Et donc il présente des aveux. Il dit qu'il a commis cette attaque en tant que membre du gang des frères Morelli. Et le gang des frères Morelli était effectivement un gang connu pour avoir commis plusieurs attaques exactement de la même nature dans l'État du Massachusetts. Et il présente ça au juge et le juge va refuser de réouvrir le dossier.
On a nos coupables.
Donc voilà, on a les coupables, on veut pas continuer à dépenser de l'argent, donc non, on va pas
Non,
réouvrir le dossier malgré les aveux.
on perdrait-tu donc la face de ne pas avoir mis les bonnes
Ouais, c'est ça.
personnes condamnées à mort?
Voilà, absolument. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu politique qui est très très fort à ce moment-là. Et donc, voilà, c'est même pas une confirmation de condamnation, on garde les deux hommes en psychiatrie, les deux hommes en détention. Et j'ai fait le lapsus parce qu'en fait, Vanzetti va à son tour, suite à ça, être placé en psychiatrie. L'affaire devient de plus en plus publique. Il y a des manifestations, il y a des comités de soutien, il y a même, alors c'est un peu étonnant, mais il y a un homme politique très célèbre qui va intervenir pour demander la grâce des deux hommes. Alors, devinez qui c'est? Alors, c'est Benito Mussolini. Et voilà. Voilà, c'est pas le meilleur des soutiens qu'on puisse
C'est ça.
avoir. Mais...
Merci pour ton intervention.
Voilà. Et donc, en mai 1926, la condamnation à mort est confirmée. En avril 1927, donc on est vraiment 7 ans après les faits, le dernier recours de Sacco et Vanzetti est rejeté et les deux hommes sont condamnés à la peine de mort. Il y a une demande de grâce qui se fait auprès du gouverneur qui va aussi la refuser. Et donc, il y a une exécution qui est programmée pour la nuit du 22 au 23 août 1927. Ça va pas plaire aux anarchistes. Donc, il y a des anarchistes qui sont proches idéologiquement de Sacco et Vanzetti qui vont mener des actions violentes contre des participants au procès. Il y a notamment une bombe qui va être placée au domicile d'un des jurés, une bombe qui va être placée chez le bourreau et une bombe qui va être placée chez le juge tailleur. Mais donc, ça ne fera pas de. Il n'y aura aucun de ces trois-là qui va être blessé ou tué par ces attaques. Sauf, je pense qu'il y a une blessure d'un employé ou d'une employée de maison du juge tailleur, mais ce n'est pas quelque chose de majeur, quoi. Alors, on va en revenir à la chanson. Moi, je disais que cette chanson, c'était une boucle. Et en fait, ces paroles, ça viendrait d'un entretien avec Vanzetti, qui aurait été tenu en mai 1927, donc en peu de temps avant l'exécution. Mais on savait déjà que l'exécution n'allait. Ben, tout était. La grâce avait été refusée, donc Vanzetti savait qu'il allait mourir. Et donc, il a fait une déclaration. Et la déclaration, c'est sans ces choses, j'aurais peut-être vécu toute ma vie en parlant au coin des rues avec des hommes méprisants. J'aurais pu mourir sans marque, inconnu, un échec. Maintenant, nous ne sommes pas un échec. C'est notre carrière et notre triomphe. Jamais de toute notre vie, nous n'aurions pu espérer accomplir un tel travail en faveur de la tolérance, de la justice, de la compréhension de l'homme par l'homme, comme nous le faisons aujourd'hui par accident. Nos paroles, nos vies, nos douleurs, rien. La paire de nos vies, celle d'un bon cordonnier et d'un pauvre marchand de poissons, tout cela. Ce dernier moment nous appartient, c'est notre agonie et notre. Pardon. Ce dernier moment nous appartient, cette agonie et notre triomphe. Donc, c'est fameux. L'agonie et notre triomphe, ce qu'on retrouve dans les paroles. Alors, on peut quand même douter de l'innocence aussi de Sacco et Vanzetti, parce il y avait des preuves légères. Ils ont été érigés en martyrs, mais en 1961, il y a un test qui a été réalisé par un expert balistique et qui conclut que c'est bien l'arme de Sacco qui a tué le garde. Donc, Sacco serait peut-être bien coupable. Mais il n'y a aucune preuve qui ne peut être apportée pour l'implication de Vanzetti, même a posteriori. En 1982, il y a un dirigeant anarchiste qui s'appelle Giovanni Gambera qui dit à son fils que tout le monde savait que Sacco était coupable et que Vanzetti était innocent. Voilà. Donc ça, c'est la fin de la chronologie. Donc voilà, peut-être Sacco coupable, Vanzetti innocent, mais en tout cas, un procès qui n'a absolument pas respecter la présomption d'innocence et le doute raisonnable. Et je vais terminer par l'adaptation française qui a été faite de la chanson par un chanteur qui s'appelle Georges Moustaki. Et la chanson a été traduite de la manière suivante. Maintenant, Nicolas et Barthe, vous dormez au fond de nos cœurs. Vous étiez tout seul dans la mort, mais par elle, vous vaincrez. Et voilà.
Alright, grosse histoire, c'est super intéressant.
Voilà, j'espère vous
Super.
avoir appris deux, trois petites choses sur cette histoire, parce qu'on connaît Sacco et Vanzetti peut-être, mais c'est vrai que les détails de cette histoire, moi je ne les connaissais pas, je les ai découvertes en faisant
J'ai
mes
tout
recherches.
découvert en ce moment.
Ah, mais bah voilà, bah, tant mieux, c'est l'idée, hein.
Yes, c'était super intéressant. Merci. Merci
T'en
encore,
prie. Je t'en prie, je t'en
Philippe.
prie.
C'est toujours le fun. Content de t'avoir eu, Silvio, aussi,
Ben oui, je...
Merci
avec
Philippe pour
nous,
l'invitation.
de ta présence. Philippe, c'était la fin du scénario du pire sur un
Ouais.
épisode incroyable. Je sais pas si tu veux nous revenir un peu là, sur
Absolument.
la sortie de cet épisode-là, puis peut-être n'en parler là. Je sais que moi, tu m'en as parlé beaucoup, ce que le travail
Ouais.
que tu mettais là-dessus. Je pense que
C'est
c'est
vrai.
un projet que tu peux être très fier.
Ah, merci, merci. Ouais, effectivement, donc on a clôturé hein, l'aventure du scénario du pire. Alors on a reçu tellement de beaux messages que tu te dis ah, quand même,
Ça donne
quoi.
le goût de continuer, hein?
Oui. Mais voilà, donc je voulais terminer avec une histoire qui était beaucoup plus personnelle. Et donc j'ai raconté une histoire bah, dans laquelle je suis, on va dire, de loin, mais un des protagonistes, parce qu'il y avait dans mon quartier, dans les années 90, un tueur psychopathe, qui était une sorte de wannabe tueur en série, qui a malheureusement fait plusieurs victimes, heureusement avec une arme très 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 rouillée, très ancienne. Donc il n'y a eu qu'un seul mort, mais beaucoup de tentatives de meurtre. Et c'est mon père qui s'est retrouvé avocat d'un jeune homme qui a été assassiné par ce tueur en série. Et j'ai fait des recherches qui m'ont permis de, notamment dans cette histoire, de reconstituer la plaidoirie de mon père le jour du procès de ce tueur. Donc, ça a été un grand moment d'émotion hein, de réécrire cette plaidoirie parce que mon père n'avait pas laissé de.
Il n'avait rien gardé, là.
En fait, non, il avait jeté les dossiers. Donc, je pense même qu'il avait d'ailleurs pas écrit sa plaidoirie, mais cette plaidoirie était magnifique. Et voilà, donc je raconte toute cette histoire du tueur et puis comment s'est passée cette confrontation avec mon père. Et puis je rencontre aussi l'avocat de la défense et on parle un peu de la monstruosité, de la perversité d'un tueur.
Ouais, c'est super intéressant d'entendre ta mère aussi à travers
Ouais,
l'épisode. C'est
exactement.
super, super bon épisode. Pour de vrai, vous avez
Merci.
fait de quoi de super qualité.
Merci.
Sinon, Silvio, c'est où qu'on peut nous
Oui.
suivre, nous autres, du bruit à mes oreilles? Es-tu capable de me dire ça?
Toi, je sais que tu es dans un bus jaune, des fois sur la route quand il n'y a pas des grèves, pour te suivre. Philippe, c'est en Belgique, je ne sais pas plus que ça où quand même, je n'ai pas les détails. C'est pas d'autres questions? Non, bien
De où je
sûr.
suis en Belgique?
Non, c'était une bonne, t'inquiète.
Ah ouais, parce que quand même, je suis à Waterloo, en Belgique,
Ah ouais,
donc je
on sait
suis
pas quand même.
près du champ de bataille de Waterloo.
Classe!
Ah
Il n'y a pas de lien avec de la musique pour un prochain épisode, non?
oui, exactement.
Plus sérieusement donc, du bruit à mes oreilles.com ou .ca, au choix. Et puis après,
Yes.
de toute façon, que ce soit là ou sur n'importe quelle application, vous trouverez les liens pour les autres. Il y a du Instagram, du bruit à mes oreilles, Facebook, du bruit à mes oreilles aussi, sûrement. Sur Twitch. Si vous êtes abonné à Amazon, vous pouvez vous abonner du bruit à mes oreilles pour. Non, c'est gratuit pour vous si vous êtes sur Amazon et ça donne 3 pièces par mois pour
Sur
du bruit à mes
Twitch.
oreilles. Je crois que c'est un peu comme ça.
Sur Twitch, ouais.
C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit.
Je sais pas,
Non,
ça
j'ai
marchait.
compris. J'ai compris
Ouais, ça
Twitch.
marchait quand même. Donc Twitch, après Patreon, avec un tiers à. Une pièce, un à 3, un à 4, un à 10, il me semble, ou 7, je sais plus pour le dernier.
Ouais, 3, 4, puis 10, ouais.
OK. Et
Trois
enfin,
pledges. Trois pledges différents qu'on peut
OK.
s'abonner.
Ah oui, pas 4, j'en ai dit 4, ouais. Donc, ouais, 3, 4 et 10. Et enfin, du Discord où on s'échange de la musique, où on se raconte des conneries, où
On se
on
dit
se
bon matin,
montre
en tout
ce qu'on
cas.
a fait, on se dit bon
Voilà.
matin, on mange ou à quoi on joue. Voilà. En gros.
Alright.
Je mettrai quelques Ennio Morricone, une sorte de petit best-of
Ouais.
dans la journée aujourd'hui, alors.
C'est
Parfait.
lancé.
Mais merci beaucoup d'avoir été là, les gars. C'était super le fun de faire ça avec vous autres. Pour ceux qui étaient sur Twitch, merci d'avoir été là et on se dit à une prochaine fois, tout le monde. À la prochaine.
Merci pour l'invitation
Merci,
encore une fois.
bye
Bonne fin de journée. Bye bye.
bye. Bye.